Radio Okapi.
Chers auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à notre journal. Voici les titres. La situation reste calme mais imprévisible dans le territoire de Walikale. Trois jours après que les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise ont pris le contrôle du chef-lieu, hier des bombardements de l'armée ont causé des dégâts matériels importants, notamment au pont Loa et à l'aérodrome de Kigoma. Du 15 au 23 mars 2025, le monde entier s'est mis au rythme de la semaine de la langue française et de la francophonie. Radio Okapi, en partenariat avec l'ambassade de France, redouble d'efforts pour permettre aux habitants des zones rurales et aux jeunes peu scolarisés de découvrir et d'apprendre le français via la radio. Ne manquez pas cette opportunité unique de plonger dans l'univers fascinant de la langue française. Créé en 1951 par les passionnés de la faune et de la flore africaine, le jardin zoologique et botanique de Kisangani est aujourd'hui en difficulté. Pour sauver le trésor national, le gouvernement congolais via Frivao a débloqué une somme colossale de 4 millions de dollars américains. À quoi servira cette manne financière? Le directeur et chef de service du jardin zoologique et botanique de Kisangani dévoilera tout dans une interview exclusive avec Radio Okapi. Ne manquez pas notre invité spécial. Gisèle Cage à la présentation. La situation à Walikale, dans le Nord Kivu, est calme mais imprévisible ce samedi. Les rebelles ont pris le contrôle du chef-lieu mercredi dernier et il n'y a pas eu d'affrontement depuis trois jours. Cependant, des bombardements de l'armée hier ont causé des dégâts matériels, notamment au pont Loa et à l'aérodrome de Kigoma. De plus, une crise humanitaire et sanitaire sévit dans la région à cause des combats, selon la société civile de Walikale. L'un de membres joint par Radio Okapi témoigne.
Cette situation a plongé justement la population dans la rue et aussi d'autres dans des zones supposées être sécurisées. Et que dans l'ensemble du territoire, il y a au moins quatre zones de santé, des Pinga, des Kibua, des Tebeo, aussi des Walikale Centre. Et toutes les zones-là sont dépourvues de médicaments essentiels pour justement intervenir aux déplacés. Et d'ailleurs, certains déplacés seraient réfugiés vers les centres de santé ou dans des hôpitaux pour être protégés. Qui malheureusement, toutes les zones de santé-là, il n'y a pas d'assistance humanitaire. Il faut savoir que à la zone de santé de Walikale, c'est MSF Hollande qui est là, qui aussi est en difficulté en termes de ravitaillement de médicaments et que actuellement, il est incapable de bien faire son travail. Nous continuons à alerter la communauté nationale internationale et aussi les organisations humanitaires de voir comment est-ce qu'ils peuvent, tant soit peu, trouver un couloir humanitaire pour assister à un certain moment. C'est là qui serait en difficulté à ce net moment.
C'était l'un des membres de la société civile de Walikale. En Ituri, les affrontements ont repris ce matin entre l'armée ougandaise UPDF et la milice Codeco au village Bethléem après deux jours de calme dans la région de Fataki au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Pour l'instant, il est difficile d'établir un bilan précis de ces accrochages selon des sources locales. Cependant, ces dernières rapportent des scènes de pillage des véhicules sur la route nationale numéro 27 par les miliciens, ce qui a momentanément interrompu le trafic sur cette route. Une forte concentration de population est observée à Djaïba et autour de la base de la MONUSCO. Ezekiel Mouzalia nous en dit plus.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues depuis tôt ce samedi matin dans les régions de Fataki, Djaïba, à plus ou moins 80 km de la ville de Bunia, dans le territoire de Djougou. Des sources locales indiquent que c'est après le retrait observé depuis vendredi de certains militaires ougandais qui ont quitté Fataki pour Mahagi où ils ont installé leur base. Les troupes qui sont restées par contre à Bethléem ont été surprises par des tirs des miliciens de la Codeco après agression la nuit d'un jeune du milieu par des bombes. bandits armés non autrement identifiés sur le tronçon Arboudou, ce qui aurait suscité encore des tensions entre les belligérants deux jours après la calmie sur le front, indiquent des sources concordantes. Des sources sécuritaires parlent de plusieurs morts de part et d'autre, sans toutefois donner des précisions. Pour l'instant, la circulation sur la route nationale numéro 27, axe Gbakaloulibi, est interrompue après le pillage des 4 véhicules, dont 2 camions, par les miliciens Aditso et Tali. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Kinshasa, une semaine après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre, les deux chambres du Parlement ont tenu leur première plénière. Vendredi, l'Assemblée nationale et le Sénat ont autorisé une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litouri. Lors de cette même plénière, les deux chambres ont également adopté leur calendrier de matière à débattre au cours de cette session. L'économie du calendrier de la Chambre basse, dont ce condensé de Michel Kifindangoy, rendu par Alain Irunga.
Ce calendrier comporte deux grandes rubriques, à savoir les matières non législatives, 9 au total, et les matières législatives, dont 5 arriérés législatifs, ainsi que les nouvelles matières. S'agissant des matières non législatives, on note, outre la validation des pouvoirs des nouveaux élus de Massimani Mba et de Yakoma notamment, l'Assemblée nationale examinera le rapport synthèse des vacances parlementaires, le contrôle parlementaire avec des questions écrites, orales et des interpellations, ainsi que l'examen des rapports annuels des activités de la CENI, de la CNDH, du CESAC et de la Cour des comptes. Elle examinera aussi les rapports des commissions permanentes, défense et sécurité, relations extérieures ainsi qu'économiques et financières et en travailler pendant les vacances parlementaires. Dans la rubrique des matières législatives figurent 5 arriérés législatifs, dont la proposition de loi portant modification du code pénal congolais et la loi Sakata sur la lutte contre le tribalisme. Plusieurs autres nouvelles matières ont été adoptées à l'unanimité par la représentation nationale.
S'agissant de la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays, c'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabuya qui a, au nom du gouvernement, présenté ce texte dans les deux chambres afin de solliciter leur autorisation. Après débat et délibération, les deux chambres ont adopté le projet de loi portant autorisation de l'état de siège dans une partie du pays. Le gouvernement congolais est déterminé à améliorer les conditions de prise en charge des militaires et de leurs familles. Dans ce cadre, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwandiamvita, a remis hier vendredi 4 ambulances médicalisées au centre hospitalier militaire de camp Seta et Mikondo. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée à l'hôtel de la Défense à Kinshasa. Reportage de Blaise Ndongala Mayanda, présenté par Jude Mister Bilanda.
Deux ambulances sont destinées au centre de santé Semoa du camp militaire Seta où sont internés des blessés de guerre d'une part et deux autres au centre d'instruction militaire de Mikondo. C'est une façon de faciliter la mobilité du personnel soignant de ces établissements hospitaliers ainsi que celle des patients blessés de guerre. Satisfait de ces gestes, le commandant corps santé militaire, général-major Jean-Claude Donsingi, a salué l'essence des dévouements de la haute hiérarchie pour son implication en faveur des militaires.
Ces deux dotations sont une preuve éloquente de l'intérêt particulier, de toute l'attention que la très haute hiérarchie accorde au bien-être du militaire, au social du militaire et tous les efforts qu'il consent pour l'amélioration des conditions de vie des militaires.
Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a rassuré de la volonté du gouvernement de doter plusieurs autres centres médico-militaires du pays des moyens de locomotion et autres matériels en vue d'améliorer la prise en charge des patients. Guy Kabombo Mwadiamvita a ainsi concrétisé sa promesse faite il y a 2 semaines après avoir constaté les conditions de travail difficiles du personnel de santé et des patients internés dans ces établissements hospitaliers et militaires de la capitale.
Comme indiqué dans le titre du 15 au 23 mars 2025, la semaine de la langue française et de la francophonie est célébrée à travers le monde sous le thème « Prenez la parole ». Cette semaine donc met en valeur la richesse et la diversité de la langue française. En RDC Radio Capi, en partenariat avec l'ambassade de France, redouble d'efforts pour permettre aux habitants des zones rurales et aux jeunes peu scolarisés d'apprendre le français via la radio. Reportage de Ronny Timbonera.
Au port de la cathédrale en Mbandaka, nous rencontrons Belinda, une commerçante fidèle auditrice de l'émission Parlons Français qu'elle dit suivre sur son poste récepteur. De manière spéciale, Belinda participe ces jours à une édition en direct de l'émission organisée dans sa ville. Après quelques heures d'apprentissage, elle est désormais capable de demander les prix d'un produit en français.
Combien coûte votre babouche?
Ma babouche, ça coûte 500 francs.
Plus loin, à Kinshasa, Madame Paola, qui n'a pas eu l'occasion de suivre un parcours scolaire, consacre son temps libre à écouter les épisodes de ses programmes radio. Aujourd'hui, elle partage avec nous ce qu'elle a appris, notamment sur la manière d'exprimer son soulagement en français.
Je suis soulagé si il fait très chaud. Je vends de l'eau froide, je prends de l'argent, je me sens soulagé. Si je mange les foufous avec les mfumbwa.
Trésor Panda et notre auditeur saluent la stratégie de production qui valorise les langues locales pour faciliter l'apprentissage du français.
À la même minute où on sait employer un terme dans une des langues parlées en RDC, à la même minute, on apprend sa version à langue française.
Avec plus de 321 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, les Français est, avec l'anglais, la seule langue parlée sur tous les continents.
Sémillantes et succulentes sont nos langues et dialectes. Tel est le thème de la Journée internationale de la francophonie, célébrée jeudi 20 mars par l'ISDER Kikwit à Kikwit dans la province du Kwilu. À cette occasion, le point focal de la francophonie et congophonie au Grand Bandundu a dressé un constat alarmant, la disparition de dialectes et langues maternelles dans cette région. Selon ces enquêtes, seuls 2% des enfants nés en milieu urbain peuvent parler leur dialecte. Pourtant, ces langues sont des trésors culturels à préserver, souligne le professeur Joël Matumo, directeur général de l'ISDER Kikwit. Il s'exprime au micro de Irène Mbomaluzolo.
Le 20 mars, la journée de la francophonie, avec sa branche que nous appelons la congophonie. La congophonie, c'est pour les valeurs, pour remettre les valeurs de langue et dialecte congolaise, puisque nous constatons que ces langues sont maintenant en danger. Même les enfants qui naissent dans les villes, en tout cas rares, j'ai fait les enquêtes, on a trouvé que n'y a pas des enfants qui parlent leur langue, exceptionnellement 2%. C'est comme s'il y a un génocide de nos langues. Ainsi, la journée congophonie, cette année ici, avait comme thème similante et séculente sont nos langues et dialectes. Alors, nous voulons rendre nos langues à leur place, puisque le français que nous parlons nous aide dans beaucoup de cas, travail, ainsi de suite. Mais nos langues, nous ne pouvons pas les perdre, puisque c'est là nos propres valeurs culturelles.
Au menu de cette célébration, entre autres la présentation de deux livres du professeur Joël Matumo Kimbinga, dont la planification stratégique nationale et la solidarité locale d'épargne des crédits pour lutter contre la pauvreté, présentation des poèmes en langue maternelle, danse folklorique, visite au musée des Kikwit et autres. Hier vendredi, l'école primaire Kileshi a été inaugurée à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette réalisation de l'UNICEF soutenue financièrement par la communauté nationale de Belgique est située au cœur d'un quartier défavorisé de Lubumbashi, dépourvu d'infrastructures de base. L'école accueille 500 élèves, dont plus de la moitié sont des filles. Reportage de Jean Gandou.
Cette école est située au quartier Kipanta dans la commune annexe à environ 12 km du centre-ville de Lubumbashi. Ce quartier est dépourvu d'établissements scolaires. Les parents qui ont des moyens inscrivent leurs enfants dans les écoles privées qui sont à près de 4 km. Les autres enfants qui ne fréquentent pas l'école sont ainsi exposés à l'oisiveté, au risque de viol et à d'autres formes de violences qui en découlent, dont le mariage forcé et précoce, le travail dangereux notamment dans les sites miniers, a indiqué la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi. Ainsi, cet ouvrage dont le coût et de 215 500 dollars américains est constitué de 6 salles de classe, d'un bureau administratif, tous équipés, des blocs sanitaires, d'un forage d'eau et d'un espace récréatif. La chef de bureau de l'UNICEF s'est dite heureuse de voir ce projet aboutir en vue de permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Annie Choa.
C'est un sentiment de joie parce que il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient vraiment pas la possibilité d'étudier. Nous avons donné quand même du sourire à beaucoup d'enfants.
Ce geste est aussi apprécié par le directeur directeur d'école, mais il plaide aussi pour la mécanisation des enseignants, Christian Kafuku.
Les enseignants ne sont pas payés. Ils se donnent malgré les peu qu'ils reçoivent. Les parents nous viennent en aide. Ils payent 5000 francs. Sur les 500 élèves, c'est 200 qui peuvent vous payer.
Lubumbashi, Jean Gandou ou Radio Kapi.
La population de la Tchopo est appelée à protéger le forêt pour les générations futures et lutter contre les effets de serre. Cet appel a été lancé vendredi par la ministre provinciale de l'Environnement à l'occasion de la Journée internationale de forêt devant la presse locale en présence des cadres du jardin zoologique de Kisangani, des responsables de la coordination provinciale de l'environnement et de l'inspection provinciale de l'agriculture. Madame Bijou Koy a recommandé le reboisement et la gestion rationnelle de forêt. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
Pour la ministre provinciale de l'Environnement, la province de la Tchopo est essentiellement forestière. Elle doit se développer grâce à ses essences variées. C'est pourquoi la population doit être informée de l'importance des forêts, souligne Madame Bijou Koy.
C'est un patrimoine que nous ne devons pas perdre, nous tous. Dans nos écoles, partout du matériel primaire, secondaire et universitaire. Ne cessons pas de montrer la valeur des forêts à nos enfants.
Plusieurs études, dit-elle, révèlent que la déforestation en RDC est due en grande partie à l'agriculture itinérante sur brûlis. La ministre provinciale de l'Environnement salue les efforts en cours visant la migration vers l'agroforesterie.
Des cultures pérennes s'observent dans la province de la Tchopo. Nous devons par ailleurs conjuguer l'effort pour une autonomisation alimentaire, manger une nourriture saine pour manger bio.
Signalons qu'au terme de cette adresse, Bijou Koy a procédé à la plantation symbolique d'un arbre en guise de reboisement au jardin zoologique. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les Nations Unies ont annoncé mercredi dernier que le budget alloué à la réponse humanitaire au Tchad pour l'année 2025 a été presque réduit de moitié. Le financement du Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad passe de 1,4 milliard à 836 millions de dollars. Avec cette baisse de 43%, seuls 2,8 millions de personnes sur les 7 millions prévus initialement pourront bénéficier d'assistance cette année. Pendant ces temps, les différents organes des Nations Unies doivent faire face à de nombreux défis humanitaires au Tchad. D'abord, l'afflux massif de réfugiés soudanais et de retournés tchadiens dans l'est du pays. Ensuite, la présence de plus de 125 000 réfugiés centrafricains dans le sud, ainsi que plus de 250 000 personnes déplacées en raison de la présence de groupes armés non étatiques dans la région du Grand Lac à l'est du pays. Enfin, les effets du changement climatique provoquent notamment des inondations massives touchant près de 2 millions de personnes l'année dernière. Autant de situations affectées par la baisse drastique du budget de l'OCHA. À cause de ces défis, le financement dont nous avions besoin a été de 1,4 milliard de dollars, explique François-Xavier Batalingaya, coordinateur résident de l'ONU au Tchad. Avec le gel de financement américain et la multiplication des crises à travers le monde, tous nos bailleurs de fonds ont réduit leur financement, a-t-il précisé.
L'invité
du journal est le directeur et chef de service du jardin zoologique et botanique de Kisangani, ce site créé en 1951 par les amis de la faune et de la flore africaine, traverse actuellement des sérieuses difficultés. Pour sauver ses patrimoines nationaux, le gouvernement congolais, par l'intermédiaire des Frivao, a loué une enveloppe de 4 millions de dollars américains aux responsables de cette structure. À quoi servira cette somme? François Matala, directeur et chef du site, explique dans cet entretien avec Jacques Moukonkole.
François Matala, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux du jardin zoologique de Kisangani aujourd'hui?
Le jardin zoologique et botanique de Kisangani, c'est une aire protégée, un site touristique qui fait la fierté de la ville de Kisangani. La superficie, c'est 84 hectares. Et la superficie là, nous avons la savane, nous avons la forêt et la plage. Et au milieu de la forêt, nous avons les eaux, le bâtiment administratif, la salle des eaux et les camps de travailleurs. Dans la forêt, nous avons les animaux qui sont en liberté et d'autres animaux sont dans des cages dans le cadre de l'éducation environnementale. Ce jardin a connu beaucoup de problèmes, surtout victime de la guerre de six jours. Et ce jardin sera bientôt réhabilité pour la fierté de la province en particulier et de la République démocratique du Congo en général.
Vous avez parlé de la réhabilitation qui aura lieu bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire exactement?
Oui, on a prévu pour la sécurisation du zoo. Donc, on va clôturer les zoos. On va changer l'approche de l'hébergement des animaux. Les animaux ne seront plus seulement dans des petites cages, mais ils seront maintenant dans des enclos où ils seront mélangés comme ils se trouvent dans la nature. Donc, en semi-liberté. À part cela, nous comptons aussi amener les animaux qui se trouvent seulement ici au Congo, comme l'okapi. À part ça, pour occuper l'espace du zoo, on a aussi prévu des espaces pour des sanctuaires, c'est-à-dire les animaux qui seront en transit.
Avec quels moyens? Est-ce que vous avez des partenaires?
Ah oui, en fait, on attendait les partenaires, mais comme les partenaires n'arrivent pas toujours, il y a le gouvernement congolais qui a mis en place donc un fonds par le fonds de Frivao. Comme les eaux a été victime, les eaux a bénéficié de ces fonds de la part de Frivao.
Quelle est la hauteur de cette enveloppe?
C'est 4 millions de dollars.
Quelles sont les espèces animales qu'on peut rencontrer dans ce site?
Ah oui, présentement nous avons un échantillonnage des animaux. Nous avons les singes achuris qui sont dans des cages. Nous avons babouin, nous avons l'antilope, nous avons le python. Nous avons la tortue marine, nous avons le bébé crocodile, nous avons les perroquets et les deux chimpanzés, donc mâles et femelles.
Quelles sont les difficultés que vous éprouvez?
Les difficultés que nous éprouvons pour le moment, tout d'abord, il y a problème d'hébergement. Les cages ou les abris pour les animaux ne répondent plus aux normes internationales. Nous comptons qu'avec la réhabilitation, on va changer. Et nous avons aussi les problèmes du personnel. Le personnel est vieillissant. Il y a aussi le problème des qualifications. Vous voyez, depuis un certain temps, l'État congolais n'engage plus des gens. Et donc, les peu d'agents qui sont là ne sont pas recyclés. Et nous avons aussi le problème d'équipement. Pour prendre soin des animaux.
En ce matin-là, vous avez aussi un problème d'infrastructure, notamment en ce qui concerne vos conditions de travail.
Oui, parce que nos bâtiments ne répondent plus aux normes. Nous avons aussi une salle qui est vraiment une salle formidable, mais qui n'est pas équipée.
Pendant un certain temps, on a déploré la spoliation de votre concession. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, merci. Nous ajouterons parmi les difficultés, il y a le problème de la pression foncière. C'est-à-dire, à l'époque, donc les eaux existaient avec le bouclier de la Chopo qui est géré par la coordination de l'environnement. Mais avec la démographie, il y a une cité qui s'est érigée en face du zoo. Et à côté de nous, il y a un village de Koumou. Et ces Koumous-là aussi font ces pressions pour qu'ils puissent avoir une partie du zoo. Conséquence, il y a spoliation.
Que comptez-vous faire pour résoudre le problème avec les communautés riveraines?
Nous avons entamé des négociations avec la communauté et les Koumous sont prêts à nous accompagner dans la réhabilitation ici, d'autant plus que ces eaux ici va booster beaucoup de choses, donc économie et sociale de la part de la communauté.
François Matala, merci.
C'est moi qui vous remercie.
François Matala, directeur et chef de service du jardin zoologique et botanique de Kisangani, s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de notre journal. Merci à Alain Goy pour la mise en onde, Jude Mister Bilanda pour la coordination et Alain Irung pour la supervision. Je suis Gisèle Cage. Pour ne rien manquer, connectez-vous avec nous sur WhatsApp via nos réseaux sociaux Facebook et X. Merci de votre fidélité à Radio Capi.